Chapitre 2. Dormir est un instinct. Ce qui se passe quand on dort. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous dormions? Pourquoi le sommeil est-il si important? Que nous arrive-t-il pendant ces heures de repos? Quelles sont les conséquences d'un mauvais sommeil sur l'organisme? Toutes ces questions ne sont pas aussi bêtes qu'elles en ont l'air. Jusqu'à une date relativement récente, nous pensions que le sommeil était provoqué par une mise à l'arrêt du cerveau. Celui-ci en profitait pour se reposer et récupérer de la journée. Nous savons maintenant que le cerveau ne cesse pas du tout de fonctionner pendant le sommeil. Bien au contraire, il est en ébullition. De nombreux neurones sont mis à contribution pour activer les processus nécessaires à la récupération, qu'elles soient physiques ou mentales. Nous avons tous déjà fait l'expérience de l'état de somnolence. Les scientifiques attribuent cet état à une substance chimique appelée adénosine, qui s'accumule lorsque nous sommes éveillés et se décompose lorsque nous dormons. Si vous faites une sieste pendant la journée, vous éliminez une partie de cette adénosine, ce qui risque de vous empêcher de trouver le sommeil la nuit venue. La mélatonine, dite hormone du sommeil, est quant à elle libérée par une glande appelée glande pinéale qui se situe dans le cerveau. Sa production est sensible à la lumière. Elle se déclenche au coucher du soleil et s'interrompt dès que la lumière revient. Cet astucieux processus permet de synchroniser notre rythme de sommeil sur celui du jour et de la nuit. Il existe deux principaux types de sommeil, le sommeil paradoxal et le sommeil non paradoxal. Lorsque nous nous endormons, nous entrons dans un premier stade du sommeil. Il s'agit d'un sommeil non paradoxal, appelé aussi sommeil léger. Environ 30 minutes plus tard, nous arrivons au stade 3 du sommeil non paradoxal, un état de sommeil plus profond au cours duquel le corps entame son processus de restauration. Il existe 4 stades de sommeil non paradoxal, le 4e étant un état de sommeil plus profond encore que le précédent. Pendant ces 2 dernières phases, le corps synthétise des protéines destinées à fabriquer les cellules qui nous rendront plus forts. Chez les enfants, c'est à ce moment-là que la croissance a lieu. C'est également un moment bénéfique pour le système cardiovasculaire. Le rythme cardiaque diminue et la pression artérielle baisse. Bon à savoir. Le sommeil a un impact direct sur la santé cardiaque. Au printemps, lorsque nous avançons notre montre pour passer à l'heure d'été, nous perdons 1 heure de sommeil. Le lendemain, le nombre de crises cardiaques augmente de 24%. À l'inverse, lorsque nous passons à l'heure d'hiver et gagnons 1 heure de sommeil, il baisse de 21%. On constate également un impact sur le taux d'accident de la route, de suicide ou la sévérité des sentences prononcées dans les tribunaux. Tout cela confirme le rôle capital du sommeil sur la santé. Des études ont suggéré que pendant les phases de sommeil profond, le cerveau repasserait les moments de la journée en accéléré, comme le ferait une caméra Super 8 qui fonctionnerait 20 fois plus vite que la vitesse normale. C'est comme ça qu'on les enregistrerait dans notre base de données personnelle. Entre ces phases de sommeil profond, nous passons par une courte période de sommeil paradoxal, appelée aussi sommeil de rêve. Au cours de cette période, le système immunitaire se reconstruit et un extraordinaire processus d'analyse se met en place dans le cerveau. C'est ce que nous connaissons sous le nom de rêve. D'apparence chaotique, ce processus mental serait en réalité extrêmement bien pensé. C'est le moment où le cerveau analyse les expériences de la journée et les relie à des expériences passées déjà stockées en mémoire. Pendant les phases de sommeil profond, on sauvegarde ainsi les nouvelles informations. C'est pourquoi les rêves semblent si arbitraires et pleins de connexions étranges. C'est aussi la raison pour laquelle il nous arrive de trouver en dormant des réponses à des questions qui nous paraissaient insolubles lorsque nous étions éveillés. Pendant le sommeil paradoxal, le cerveau est particulièrement actif, plus actif même dans certaines régions que lors des phases d'éveil. Si ces pensées nous faisaient passer à l'acte, on risquerait de se retrouver dans des situations très étranges, voire dangereuses. Pour l'éviter, le cerveau désactive les signaux moteurs, nous paralysant ainsi temporairement. Pour résumer, nous dormons donc pour restaurer, reconstruire, mémoriser et analyser. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque nous sommes privés de sommeil. Les bienfaits du sommeil. Pendant les phases de sommeil profond, nous rejouons les leçons de la journée et les gardons en mémoire. Le sommeil est donc essentiel pour les jeunes autant que pour les adultes. C'est le moment où l'on apprend et où l'on mémorise les nouvelles connaissances. Le sommeil joue également un rôle important dans la préparation du cerveau aux apprentissages. Des études ont montré que le manque de sommeil affectait une partie du cerveau appelée hippocampe, le centre de contrôle de la mémoire, ce qui entraîne une réduction de 40% de sa capacité à créer de nouveaux souvenirs. Les trous de mémoire sont un symptôme du vieillissement au même titre que les troubles du sommeil. Est-ce une coïncidence? Absolument pas. On sait aujourd'hui que le manque de sommeil contribue au déclin de la mémoire qui est associé au vieillissement, mais aussi à des pathologies plus sévères comme la maladie d'Alzheimer ou les différentes formes de démence. Nous avons récemment découvert le fonctionnement du système lymphatique. Son rôle est d'éliminer les toxines présentes dans le système nerveux central. Il est activé par de petites décharges électriques dans le cerveau pendant que l'on dort. Cela permet de protéger et de rafraîchir nos fonctions cognitives chaque jour. Lorsque le système lymphatique n'est pas suffisamment sollicité, les toxines s'accumulent. Il a été prouvé que ce phénomène joue un rôle dans la maladie d'Alzheimer. De même, il a été démontré qu'un manque de sommeil paradoxal ou un sommeil paradoxal perturbé augmente les risques de développer la maladie de Parkinson. On sous-estime l'importance du sommeil, y compris chez les personnes qui ne souffrent pas d'insomnie. Se priver régulièrement du sommeil dont on a besoin réduit l'espérance de vie en général et l'espérance de vie en bonne santé en particulier. Nombreux sont ceux qui consacrent moins de 8 heures de leur journée à dormir sans se rendre compte du mal qu'ils se font. Je ne parle pas de ceux qui, comme vous, peinent à dormir plus longtemps, mais de ceux qui, par ignorance, choisissent de ne pas le faire. Au moins, vous êtes conscient de vos troubles et vous savez que vous tenez votre salut entre vos mains. Ce constat peut être angoissant. Pour voir le bon côté des choses, vous pouvez vous dire que vous avez désormais la situation en main. Vous êtes sur le point de vous libérer du cauchemar que vous vivez au quotidien à cause de vos insomnies, de la fatigue, de l'irritabilité et des difficultés relationnelles qu'elles entraînent. Vous allez en tirer des bienfaits que vous n'imaginez même pas, et ce, pour le reste de votre vie. Les troubles du sommeil sont des signaux annonciateurs de problèmes de santé qui peuvent survenir jusqu'à 20 ans plus tard. Il est donc capital de prendre des mesures préventives. Le sommeil fonctionne comme un mécanisme d'alerte qu'il faut savoir écouter. Vigilance. Après une bonne nuit, on est moins fatigué. C'est une évidence. On peut trouver ça sans importance. Tout le monde peut supporter d'être un peu fatigué pendant une journée, après tout. Ce n'est vrai que jusqu'à un certain point. Que vous vous occupiez de jeunes enfants ou que vous soyez sous pression au bureau, que vous utilisiez les transports en commun ou que vous alliez travailler à pied, le manque de sommeil altère votre jugement et vos facultés de concentration, ce qui peut vous mettre en danger. Ces conséquences sont plus dangereuses encore si vous utilisez une machine au travail ou que vous vous y rendez en voiture. La loi encadre très strictement la consommation d'alcool et des autres drogues au volant. Mais la fatigue est la première cause de décès sur la route. L'alcool au volant est très dangereux, car il ralentit le temps de réaction. Mais lorsque l'on s'endort au volant, on ne réagit plus du tout. Pour ce qui est des accidents mortels, la conduite en état de fatigue est tout aussi grave que la conduite en état d'ivresse. Il suffit de 2 petites secondes de distraction pour se déporter sur l'autre voie et rouler en sens inverse. L'alcool cause plus d'accidents, mais ceux causés par la fatigue sont plus fréquemment mortels. Santé psychique. On sait que le manque de sommeil nous rend irritables. Mais ce n'est que la partie émergée d'un tragique iceberg. Dans les cas extrêmes, on constate une augmentation nette des dépressions, de l'anxiété et des suicides. Au centre du cerveau se trouvent 2 régions en forme d'amande appelées amygdales, du grec « amande ». Elles servent à réguler nos émotions, à établir des liens entre nos souvenirs, à nous aider à prendre des décisions et à activer notre système de récompense. D'après les scientifiques, sa réactivité augmenterait de 60% lorsque l'on manque de sommeil. Dans le même temps, le cortex préfrontal, qui contrôle le cerveau émotionnel, est inhibé par la fatigue. Cette hyperactivité de l'amygdale, combinée à la modération défectueuse exercée par le cortex préfrontal, affecte le comportement. Nous devenons instables. Nous passons d'une totale irascibilité à l'excitation la plus extrême, sans transition aucune. Nos réactions sont tyranniques, voire carrément irrationnelles. La plupart du temps, la fatigue rend simplement irritable. Mais lorsque ces réactions plus sévères s'installent, le cerveau adopte un fonctionnement comparable à celui que l'on observe dans les cas de troubles psychiatriques graves. Plus qu'un simple symptôme, l'insomnie est un signe précurseur qui doit tirer la sonnette d'alarme. elle pointe du doigt des troubles susceptibles de dégénérer en dépression, syndrome de stress post-traumatique, SSPT, et même en suicide s'ils ne sont pas traités. Ne vous inquiétez pas, l'angoisse ne vous aidera pas à résoudre vos problèmes de sommeil. Elle risque même de les empirer. Si vous arrivez à dépasser cette peur en faisant confiance à notre méthode, vous vous apercevrez que ces risques se transformeront en immenses bienfaits dont vous profiterez à l'issue de votre écoute. Le système immunitaire. Le sommeil et le système immunitaire sont largement intriqués. Pour le dire autrement, le sommeil affecte le système immunitaire qui affecte le sommeil en retour. Il existe deux types d'immunité, celle de naissance et celle que l'on acquiert avec le temps. Il est important que toutes deux soient équilibrées. Lorsque l'on dort, le système immunitaire se renforce et devient plus dynamique. Les cellules qui identifient et détruisent les agents pathogènes ont besoin du sommeil pour se multiplier. Une mauvaise nuit suffit à réduire de 70% l'activité des globules blancs. Ainsi, lorsque nous dormons mal, nous ne devenons pas seulement irritables, nous devenons aussi plus vulnérables aux maladies. Cela dépasse largement la sensation de fatigue. Le manque de sommeil est pointé du doigt dans de nombreuses formes de cancer, à tel point que l'Organisation mondiale de la santé, avec laquelle nous travaillons, répertorie le travail de nuit comme un probable agent cancérigène. Cela ne veut pas dire que vous devriez changer de travail si vous êtes dans cette situation, mais il faut garder en tête que l'on devrait tous accorder autant d'attention à notre sommeil qu'à notre régime alimentaire ou nos pratiques sportives. C'est une priorité absolue. Dire que certains se privent de sommeil pour faire de l'exercice avant d'aller au travail, cela me semble fou. Du point de vue de la santé, c'est comme remplir d'eau un seau percé. Aller à la salle de sport est une très bonne habitude, mais ça doit aller de pair avec un sommeil sain. La séduction. Vous connaissez l'expression « beauty sleep ». Elle est on ne peut plus à propos. Le sommeil rend réellement plus séduisant. Ce n'est pas un scoop. Le manque de sommeil brouille le teint, des poches sombres qui se creusent sous les yeux, une peau blafarde, des cheveux blanchis, un manque général de vitalité. Quelqu'un qui a mal dormi se reconnaît à mille lieues. Peut-on dire que c'est moins beau pour autant? Eh bien oui, cela a été prouvé. Des chercheurs suédois ont pris en photo des cobayes, une première fois après une bonne nuit, une deuxième après une mauvaise. Ils les ont ensuite montrés à un panel de juges qui n'étaient pas au courant de l'objet de l'expérience. Ceux-ci ont systématiquement jugé plus attrayante la photo sur laquelle les cobayes étaient reposés. Aïe ! Les animaux souffrent-ils d'insomnie ? Tous les animaux dorment. Chez certains mammifères, comme le dauphin, les deux hémisphères s'assoupissent à tour de rôle, afin qu'il y en ait toujours une en alerte en cas de danger. D'autres, comme la grenouille taureau, dorment uniquement pendant la période d'hibernation. Mais, quelles que soient ces modalités, le sommeil est un mécanisme indispensable à la santé du cerveau et du corps chez toutes les espèces. Les animaux n'ont pas tous besoin de 8 à 9 heures de sommeil par nuit, comme c'est le cas des humains, mais ils obtiennent toujours le repos dont ils ont besoin pour bien fonctionner. Tous, sauf nous. L'humain est la seule espèce qui souffre d'insomnie chronique et qui choisit de ne pas toujours respecter ce besoin vital. Je ne parle pas des soirées qui se prolongent parfois, tout le monde fait la fête de temps à autre. Je parle de tous ces gens qui, nuit après nuit, n'atteignent pas leur quota de sommeil. Tout comme l'obésité et la toxicomanie, conséquences elles aussi de la vie moderne, les troubles du sommeil sont un fléau qui ne touche que les hommes. Ces causes sont à chercher exclusivement dans les comportements humains. L'homme est la seule espèce qui combat cet instinct et la seule qui interrompt délibérément son sommeil chaque matin en ayant recours à une méthode bien peu naturelle, l'usage du réveil. Nos pratiques ne correspondent pas du tout à ce que la nature a prévu pour nous. Nous avons parlé de la mélatonine, cette hormone qui réagit à la lumière, nous incitant à dormir lorsque le soleil se couche et à nous réveiller lorsqu'il se lève. À notre époque, qui se couche et se lève encore avec le jour? On a fait le choix d'ignorer les signaux naturels. Comment s'étonner ensuite de souffrir d'insomnie, sans parler des problèmes de santé que celle-ci provoque? Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de vous coucher avec le soleil, ni de vous réveiller avec l'aube. Mais lorsqu'on prend conscience de ça, on comprend mieux comment nos choix de vie créent des conditions contre nature. Pour vous débarrasser définitivement de vos insomnies, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour réduire au minimum ces choix de vie délétères. Nos emplois du temps ne nous permettent pas vraiment de nous coucher avec le soleil, mais on a d'autres moyens d'agir sans mettre notre organisation quotidienne en péril. Ces petits gestes vous aideront en réalité à mieux vous porter physiquement, psychologiquement et même financièrement. Se laisser guider par Mère Nature. Lorsque l'on s'intéresse au sommeil, son rôle comme la manière dont il fonctionne, force est de constater que l'être humain est une machine incroyable, infiniment plus complexe qu'une voiture ou que le plus perfectionné des avions de chasse. Et pourtant, il y a une faille. Cette faille est à l'origine de tous les problèmes que l'homme se crée lui-même, que ce soit les addictions, l'obésité ou l'insomnie. La différence entre l'homme et les autres animaux, c'est que tous leurs comportements sont dictés par l'instinct. Ainsi, ils dorment tous profondément à l'heure de la nuit ou du jour qui leur convient le mieux. L'homme a aussi des instincts, mais en plus, il dispose d'une forme d'intelligence qui lui est propre. Il se souvient des expériences passées et peut appliquer les connaissances ainsi acquises à de nouvelles situations. Il est également capable de communiquer ses connaissances et de les transmettre aux générations futures. Grâce à ce pouvoir de déduction, il a développé une faculté d'apprendre et de progresser qui lui donne une longueur d'avance sur le reste du règne animal. Mais cette supériorité lui a également donné la conviction d'être maître de son destin. Lorsque son instinct et son intellect sont en désaccord, il a tendance à faire confiance à l'intellect. C'est le défaut de la machine humaine. L'instinct est une réponse inconsciente, c'est pourquoi nous la comprenons mal. Nous ne lui faisons donc pas confiance. Lorsque notre instinct et notre intellect sont en conflit, il nous est plus facile d'avancer un argument raisonné en faveur de la ligne d'action dictée par le cerveau, même s'il existe des preuves accablantes que cette option est la mauvaise. Prenons un exemple. Imaginons que vous devez jouer votre réputation professionnelle sur le résultat d'un match de football. Vous pouvez demander l'avis de deux personnes. L'une d'elles est la personne la plus intelligente de la planète, qui a prédit le résultat d'une centaine de matchs avec un taux de réussite de 75%. L'autre a tout d'un inadapté, incohérent, peu cultivé et peu présentable. Mais il a fait 1 million de pronostics qui se sont tous avérés justes. À qui feriez-vous confiance? Faute de comprendre nos instincts, nous les considérons comme peu fiables. Une intuition au mieux, un conte de bonne femme au pire. Mais les messages que l'instinct envoie ne sont pas le fruit du hasard. C'est le résultat de 3 millions d'années d'essais et d'erreurs. C'est ce qui permet aux autres animaux de se reproduire et de se nourrir sans danger. Les animaux sauvages ne souffrent pas de troubles alimentaires comme les humains. Ils n'ont aucun risque de devenir obèses. Ils ne consomment pas de substances toxiques pour leur santé. L'instinct est leur guide. Nous parlons souvent du miracle de la vie. La raison pour laquelle le processus de la reproduction nous semble si miraculeux, c'est qu'il dépasse largement les capacités de notre intelligence. Le fait est que les réalisations de l'espèce humaine, aussi grandes soient-elles, sont insignifiantes à côté de celles de Mère Nature. Le meilleur moyen de savoir comment une machine fonctionne est de demander à la personne qui l'a conçue. Il en va de même pour le corps humain. Si vous voulez comprendre comment il fonctionne, ou en l'occurrence pourquoi il semble ne pas fonctionner, la meilleure manière est de vous laisser guider par Mère Nature. En d'autres termes, écoutez votre instinct. Vous êtes maintenant prêt pour la troisième instruction. Si on vous donne un conseil qui contredit les intentions évidentes de Mère Nature, quelle que soit la qualification de la personne qui vous le donne, ignorez-le. J'appelle cette instruction la clé à molette. Qu'importe la confiance que vous inspire son expertise, suivre les conseils de quelqu'un plutôt que d'écouter ce que vous dicte votre instinct est une mauvaise idée. C'est aussi peu judicieux que de choisir de confier votre voiture à réparer à un singe plutôt qu'à un mécanicien. L'intelligence n'est pas la seule chose qui nous distingue du reste du règne animal. Nous sommes la seule espèce sur la planète à souffrir de troubles du sommeil. 99,999% des créatures qui vivent sur Terre trouvent le sommeil dont elles ont besoin au moment où elles en ont besoin. Cela ne doit pas être bien compliqué. Et pourtant, l'espèce la plus intelligente qui soit a du mal à trouver la solution. Ce n'est pas le cas de tous les animaux, certes, mais les seuls qui souffrent de problèmes de sommeil ou de poids sont ceux qui sont nourris et soignés par les humains, comme les animaux de compagnie, ou ceux qui se nourrissent de leurs déchets alimentaires chargés de sucre raffiné et de glucides transformés. Pigeons, rats, etc. Et si l'intelligence était la source même de notre aveuglement? Ce serait pour le moins ironique. Le fait que nous soyons l'espèce la plus intelligente nous détournerait-il de la vérité? En savons-nous vraiment plus que le reste du règne animal? Pourquoi, par exemple, devons-nous nous adresser à des nutritionnistes pour savoir ce qu'il faut manger pour rester en forme? Les animaux n'ont pas besoin de diététiciens, ils savent d'instinct ce qui est bon pour eux. Nous le savions, nous aussi, il y a fort longtemps. L'objectif de ce livre audio est de vous aider à retrouver une relation simple au sommeil. Vous vous dites probablement que si c'était si facile, vous auriez déjà trouvé la solution miracle. Si la vie était si simple que ça, ça se saurait. Je vous renvoie au 99,999% du règne animal pour qui trouver le sommeil est une évidence. Dès son plus jeune âge, l'homme lutte contre le sommeil. C'est indéniable. Nous en examinerons les raisons dans le chapitre suivant. Mais il faut avant cela répondre à deux fausses idées qui circulent au sujet de la méthode d'Alan Carr. 1. Ce n'est pas de la magie. De nombreuses personnes qui ont arrêté de fumer, de consommer de la cocaïne ou autre grâce à cette méthode ont tendance à utiliser le mot « magie ». Mais ce n'est qu'une façon de parler. Cette méthode n'a rien de complexe ni de mystérieux. Il s'agit du plus simple bon sens. 2. Il n'est pas question de manipulation mentale. Au contraire, la méthode s'attache à dissiper des illusions. C'est son principe même. Il n'est question que de revenir à une logique simple et claire. Une fois que vous aurez vu les choses telles qu'elles sont, plus rien ne pourra vous faire changer d'avis.